France Culture.
Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Nos Passaranes, la guerre d'Espagne et la solidarité antifasciste internationale quand Franco organise son coup d'État en 1936. Voilà 14 ans que Mussolini a imposé le fascisme en Italie. Voilà 3 ans que l'Allemagne est tombée sous la coupe nazie d'Hitler. La solidarité entre les fascistes est alors une évidence. Mais dans le même temps, la guerre civile espagnole structure le combat antifasciste dans toutes les démocraties en Europe.
À partir du moment où nous voulions lutter contre le fascisme, eh bien, il y avait le combat ultime qui était le combat les armes à la main.
On ne défend pas la paix en se mettant à quatre pattes. Il faut faire front.
Pierre Salmon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence en histoire contemporaine à l'École normale supérieure. Vous êtes membre de l'Institut d'histoire moderne et contemporaine. Vous arrivez avec La guerre d'Espagne, un ouvrage que vous avez co-dirigé, La guerre d'Espagne, la démocratie assassinée 1936-1939. Et pour parler du fascisme et de l'antifascisme en Espagne et en Europe aujourd'hui avec vous, Anne Mathieu, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférence à l'Université de Lorraine. Je voudrais savoir avec tous les deux, parce que vous avez travaillé sur le fascisme, en 1922, la marche sur Rome en Italie permet à Mussolini d'arriver au pouvoir. Le fascisme est en Italie dans les années 1920. Qu'en est-il de l'Espagne à ce moment-là? Dans quelle situation est l'Espagne? Est-ce qu'il y a un regard sur ce qui se passe en Italie?
Oui, évidemment, hein, il y a un regard sur ce qui se passe en Italie et c'est très rapide. Hein, il y a les informations circulent, on commente et ce qui est intéressant, c'est que l'Italie aussi inspire. Et le mot antifascisme, il apparaît dans la presse espagnole au départ comme une insulte, comme un stigmate. Voilà, il faut de l'ordre, donc il faut le fascisme. En tout cas, ce modèle inspire beaucoup et pourquoi? Parce qu'on le retrouve, dans des formules, dans des méthodes et puis rapidement, en fait, ça va dépasser un petit peu ce simple modèle politique pour devenir aussi des partis, puisqu'il va y avoir en Espagne plusieurs partis fascistes ou d'inspiration fasciste, hein, dont le plus connu est la Falange, qui a été fondée à la fin de l'année 1933, et qui va, et ça c'est important, qui va aspirer aussi, qui va créer une dynamique en Espagne, une dynamique d'une fascisation qui d'ailleurs, on pourra y revenir, dépasse très largement le cadre des simples partis et de leurs emblèmes.
Anne Mathieu, vous êtes l'autrice de cette réflexion autour du fascisme. Nous n'oublierons pas les points levés, les reporters éditorialistes et les commentateurs antifascistes pendant la guerre d'Espagne. Peut-on dire que ce moment des années 1930 de la guerre d'Espagne, c'est un moment où se définit ou redéfinit ce qu'est le fascisme?
Alors, ce moment où se redéfinit le fascisme, en fait, il y a un contexte général, hein, pour continuer dans ce que vient de dire mon collègue. Il y a un contexte général qu'on appelle à l'époque des fascismes et qui est concomitant avec une expression que va trouver Jules Romain, qui est la montée des périls. Et c'est vrai que voir ce qui se passe en Espagne, c'est bien entendu une référence à l'Italie obligatoire dès le début, mais ensuite il y a cette montée justement à l'intérieur de l'Europe, et puis aussi un conflit qu'on a tendance beaucoup trop à oublier à mon sens, qui est le conflit italo-éthiopien, où aussi des journalistes vont être présents. C'est un des premiers conflits véritablement couverts par des journalistes français, avec une présence de la photographie, du photoreportage également. Bon, c'est loin, mais je ne vais pas développer sur le conflit italo-éthiopien maintenant. Mais il y a tout ce contexte, plus tous ces réfugiés exilés politiques qui arrivent à Paris. Et donc, on a une empreinte, en effet, de cette ombre du fascisme qui commence à s'étendre sur l'Europe et qui est bien au-delà de Mussolini, d'Hitler, et qui, bien entendu, joue dans ce qui se passe en Espagne.
Oui, parce qu'en Espagne, dans les années 1920, ces années-là, ce sont des années où l'Espagne est une monarchie. La République, c'est tout au début des années 1930. Dans les années 1920, donc au moment où Mussolini est au pouvoir en Italie, est-ce que la monarchie espagnole regarde un petit peu du côté du fascisme ?
Bien entendu, bien entendu. Et il n'y a pas que la monarchie espagnole. On pourrait dire Churchill est inspiré, en tout cas intéressé par ce qui se passe en Italie fasciste, même Gandhi. C'est pour donner quelques exemples. En tout cas, dans la monarchie espagnole, on regarde le roi Alphonse XIII est vraiment intéressé par l'expérience italienne et le dictateur Miguel Primo de Rivera, voilà, s'inspire des méthodes de l'encadrement de la population. Bon, il parvient pas à mettre en place un système vraiment directement inspiré du fascisme, mais en tout cas, le modèle existe à tel point que Alphonse XIII appelle son Miguel Primo de Rivera mon Mussolini, c'est dire si ce modèle inspire à l'étranger.
Oui, parce que Primo de Rivera, c'est ce dictateur en Espagne au temps de la monarchie qui marque les années 1920 jusqu'à la proclamation de la République, on peut dire ça, Anne-Mathieu ?
Oui, tout à fait, le 14 avril 1931. Alors, bon, c'est peut-être un raccourci très très rapide, mais c'est aussi une réponse justement à ce fascisme, à cette montée des fascismes. Une affirmation de ce peuple espagnol qui veut faire autre chose de son pays et qui donne aussi une image à l'Europe qui va être très intéressante puisqu'il va y avoir, comme on le sait habituellement, des éléments très avant-gardistes, modernistes, qui vont être pris par cette République espagnole, notamment l'autorisation du divorce, pour ne citer que cet exemple-là. Donc on est dans une ambiance aussi, alors c'est sûr que le fascisme monte, mais dans une ambiance aussi de ressac qui montre que les peuples, enfin, en tout cas, une partie d'entre eux, parce que le peuple peut être aussi fasciste, une partie d'entre eux a décidé de donner une autre réponse.
Et oui, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, parce que au moment où nous évoquons le fascisme, nous sentons bien que nous ne sommes pas simplement sur un pouvoir autoritaire, un pouvoir fort. La dictature de Primo de Rivera, c'est un pouvoir fort, c'est un dictateur tel qu'on peut l'imaginer, parce que le fascisme ajoute des éléments ici pour saisir ce que c'est que l'antifascisme. Faut définir le fascisme si nous l'appliquons à l'Espagne. Qu'est-ce que le fascisme ici ? D'ailleurs, peut-on parler de fascisme et pas simplement prendre des éléments d'autoritarisme de ce que propose Mussolini en Italie, Pierre Salmon ?
Effectivement, alors Miguel Primo de Rivera, il avait pris certains éléments du fascisme, mais il lui manquait peut-être l'encadrement de la population, en tout cas un encadrement efficace. Mais il y avait déjà certains ingrédients, comme l'ultranationalisme, l'anticommunisme, l'antiparlementarisme, et vont s'ajouter à cela, et notamment sous la République, d'autres ingrédients qui sont le règlement des soucis politiques par la violence, ou voire même la violence en soi, comme outil politique pour avancer. Marianne Matar-Bonucci le rappelait très bien hier dans cette émission, c'est un régime d'action, de mouvement qui mute, s'adapte aux circonstances, et les circonstances espagnoles, elles sont celles d'un pays qui est passé aussi par une vraie crise politique et internationale du fait de la perte des colonies espagnoles et qui a alimenté en Espagne le souci d'un régénérationnisme. Il faut régénérer la nation espagnole, et ça on est vraiment dans l'ultranationalisme, il faut donc épurer toute cette nation et aussi de ces périls extérieurs. Mais ces périls extérieurs, ils sont considérés comme le communisme, quand bien même le communisme est très peu implanté en Espagne à cette époque. Et puis, la démocratie, puis on parle aussi facilement des maçons, des juifs, enfin voilà, toutes sortes de périls imaginaires qui alimentent ce discours fasciste de l'époque et qui vont alimenter les droites espagnoles qui vont accompagner ce mécanisme qu'on souligne dans l'ouvrage, ce mécanisme de fascisation qui va entraîner pas seulement les partis fascistes, il faut insister, mais aussi d'autres partis comme la CEDA, le parti de Gil Robles, qui est quand même un parti qui joue le jeu de la République au départ, en tout cas le légalisme, les élections, qui se dit « bon, la République est là, c'est accidentel, on va essayer de la changer, on va essayer de revenir vers la monarchie par les urnes ». Et puis, en fait, Gil Robles, il est bien inspiré par le congrès de Nuremberg, il voyage avec d'autres, et puis il se dit que les fascismes en général, c'est peut-être la solution à apporter face à ce qu'il considère être le problème de l'Espagne, c'est l'émancipation du peuple, les grandes libertés que Anne-Mathieu a soulignées, c'est justement tout ce progrès, en fait, et cette démocratie, en fait.
Pierre Salmon, l'ouvrage que vous venez d'évoquer, c'est celui que vous avez co-dirigé avec François Godichaud et Mercedes Yusta, La guerre d'Espagne 1936-1939, La démocratie assassinée, publié chez Talendier. Et Anne-Mathieu, faut le dire aussi parce qu'il y a toujours un regard biaisé si nous adaptons une seule position. La volonté de régénérer l'ensemble d'une population par le fascisme trouve en miroir la volonté aussi du côté communiste et avec ici toutes ces variantes anarchistes, la volonté de régénérer la population. On est dans un moment intense de réflexion. Les tensions sont très fortes. Ce ne sont pas des démocraties parlementaires douces et fluides et libérales face au fascisme. Il y a d'autres éléments qui permettent de saisir les tensions du moment.
Bien sûr, c'est-à-dire la poursuite de l'homme nouveau cher aux camarades communistes, hein, qui vont en effet vouloir aussi l'imprimer en Espagne. Mais on n'en est pas encore là avant la guerre d'Espagne, puisque le Parti communiste est un parti complètement groupusculaire avant le déclenchement de la guerre d'Espagne. Et c'est la guerre d'Espagne, en fait, qui va faire le communisme. En revanche, la particularité espagnole, c'est des centrales syndicales qui sont extrêmement importantes. Hein, c'est l'UGT, l'Union Générale des Travailleurs, c'est la CNT, la Confédération Nationale du Travail, la centrale anarcho-syndicaliste. Et ça, c'est une part qu'ils ont... Alors bon, les historiens ne sont pas toujours d'accord sur les chiffres à donner, mais on va dire environ entre 1 million, 1,5 million et 2 millions d'adhérents, ce qui est bien entendu énorme. Et cette empreinte du syndicalisme en Espagne confère un autre visage à l'Espagne et à ce qui va monter ensuite, et notamment lors du déclenchement de la guerre d'Espagne.
Oui, parce que la guerre d'Espagne, c'est en 1936, c'est à l'été hein, qu'il y a ce coup d'État du général Franco. Et à ce moment-là, effectivement, la gauche, ou en tout cas l'opposition à ce mouvement qui fait peur et qui menace la République, ben, cette gauche-là paraît passablement divisée.
Alors, si j'ai bien compris, il y a eu un moment où les républicains, mais essentiellement les anarchistes, ont dirigé la Catalogne.
Voilà, exactement.
Mais comment s'organisait le pouvoir politique ? Les anarchistes n'étaient pas seuls.
Comment c'était les syndicats ? Eux, ils ont pris en main, en tant que syndicalistes, la marche des usines, etc. Bon, bien sûr, après, la politique, elle a pris le dessus, parce que quand les autres, ils ont vu que le putsch, elle était ratée, eh bien, à ce moment-là, tout le monde est sorti de son trou. Les communistes en premier, puis les républicains, puis les catalans. Il faut dire qu'au début aussi, il y en avait. Hein. Les sincères, ils y étaient là. Hein. Mais la majorité étaient des anarchistes. Ça, hein. Personne ne peut le discuter que les trois premiers jours de la révolution en Espagne, c'était les anarchistes. À partir de là, donc, on a dit, il faut aller à l'Aragon. Et dans ce syndicat que je dis du métaux qui se trouvait en pleine Rambla, que c'était une artère très connue à Barcelone, tous les militants, ils ont commencé à partir. Emportés par les larmes, moi aussi, je voulais aller au fond. J'ai sauté dans un camion et dans un de ces camions, c'est Durruti qui l'organisait, c'est lui le premier qui est parti. Et lui me connaissait de ce syndicat des métaux quand j'étais toute gamine, enfin j'étais encore gamine mais moins. Alors il m'appelait la petite et alors il me dit où tu vas toi? Je dis ben, je vais au front avec vous. Il m'a dit non, non, toi tu restes ici, d'abord tu es jeune et deuxièmement ici on ne peut pas tous partir parce que bientôt il y aura la bataille, qu'il va falloir qu'il y ait des militants sûrs pour tenir les rênes. Je n'étais pas une militante sûre, puisque j'étais jeune. Mais il m'a dit, tu auras du travail à faire. Il ne se trompait pas.
La petite, c'est Pepita Carpegna, alors militante féministe, libertaire, espagnole. Nous étions ici en 1996 pour ce témoignage sur France Culture. Anne Mathieu.
Oui, alors là, je fais un bond dans le temps, justement, qui est conféré par le son qu'on vient d'entendre, parce que quand on parle guerre d'Espagne, se joue aussi une bataille des mémoires. Et là, c'est absolument remarquable dans ce qui nous est dit. Bien entendu que je ne vais pas remettre en cause le témoignage de cette dame hein, qui a un parcours éminent. Mais néanmoins, on entend bien hein, dans ce qu'elle est en train de dire le fait qu'elle veuille à tout prix évoquer la force anarchiste en Espagne, que c'est les anarchistes les premiers qui se sont battus, etc. Et le problème, c'est que tout ça confronté à l'épreuve des faits, c'est un peu autre chose. Bien entendu, personne ne peut en effet dire que les anarchistes, enfin du moins les anarcho-syndicalistes n'avaient pas une force extraordinairement importante en Espagne, qu'ils se sont battus bec et ongles et ont eu énormément de pertes en Catalogne, etc. Mais pendant que se joue la bataille en Catalogne et que justement les fascistes, ou du moins les franquistes, qui bientôt vont avoir leurs alliés fascistes, Mussolini et Hitler avec eux, pendant que se joue la bataille de Catalogne, se joue aussi la bataille de Madrid. Et à Madrid, ce ne sont pas les anarchistes qui sont les plus présents, même si Durruti, en effet, va aller aussi sauver en partie la bataille de Madrid. Donc, La guerre d'Espagne, c'est aussi, il y a aussi toujours une difficulté d'en parler, même si ça s'amenuise. Moi, je le remarque au fil des décennies. On n'est plus du tout dans cette configuration-là, enfin, qu'il y avait encore il y a 10 ans, 20 ans en France. Mais voilà, il y a des choses qui sont toujours difficiles à évoquer parce qu'on se trouve heurté à un héritage des mémoires. Alors, ça a un intérêt, mais d'autres fois, ça empiète aussi sur le discours des chercheurs.
Et c'est pourquoi la parole de l'historienne ici est importante. La parole de l'historien aussi, à Pierre Salmon. Qu'est-ce que vous vouliez rajouter là sur ce témoignage de Pepita Carpegna?
Il y a plein de choses dans ce témoignage. Hein. Il est passionnant et je rejoins tout à fait ma collègue hein, sur ce qu'on peut appeler la querelle des responsabilités. Hein. Chaque camp au sein du camp antifasciste espagnol a un peu rejeté sur l'autre la responsabilité de la défaite. Alors quand bien même la responsabilité de la défaite est peut-être même imputée aux fascistes, au sens général du terme, et puis à la non-intervention, à l'aide italo-allemande, etc., etc. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit la mobilisation, et même au-delà des étiquettes et des partis, une mobilisation vraiment populaire. Alors, là aussi, peut-être, il faut nuancer, parce qu'on sait que là où la République a résisté, c'est là où une partie des forces de l'ordre sont restées fidèles à cette République. Donc, tous les militaires n'étaient pas fascistes, entre guillemets, ou tous les gardes civils, voilà. Bon, ça c'est un fait, mais quand bien même, il y a une participation dans certaines villes, comme Barcelone, on parle de l'Aragon, de la population, et cette population, de fait, avec l'encouragement des centrales syndicales, ensuite creuser cette brèche pour promouvoir cette révolution sociale. Une vraie révolution, parce que c'est considéré aussi la révolution, la grève générale, la barricade, comme une arme efficace contre le fascisme. Ça fait partie totalement du répertoire d'action ouvrier contre le fascisme. Alors, ça n'a pas été efficace sur le long terme, parce que ce coup d'État s'est transformé en longue guerre civile, ensuite en guerre moderne, internationale. Mais au départ, on déploie cette arme contre ce coup d'État fasciste dans plusieurs grandes villes, si bien que la situation reste figée. Hein. Nos collègues espagnols parlent d'équilibre des incapacités. Aucun des deux camps, insurgés ou républicains, n'est capable de l'emporter. Et à partir de là, au sein du camp républicain, qu'on va vite appeler camp antifasciste, en fait, vont se nouer de nombreuses divisions sur la manière de faire la guerre, la manière de lutter contre le fascisme. Est-ce qu'il faut centraliser les efforts? Est-ce qu'il faut additionner les forces? Et si on centralise les efforts, derrière qui? Derrière quelle valeur? Est-ce qu'il faut promouvoir la révolution maintenant ou la révolution plus tard? Est-ce qu'il faut faire la révolution et la guerre? Est-ce qu'il faut nécessairement opposer révolution et guerre? Les deux peuvent être faits ensemble. Ouais, de nombreuses divisions qui, évidemment, peuvent opposer socialistes et communistes d'un côté, puis de l'autre côté des révolutionnaires, mais en fait, qui dépassent, en fait, c'est central. On a même chez les anarchistes des divisions très très fortes sur cette conduite de la guerre, sur la manière dont il faut la faire, et sur les priorités, en fait, de la lutte antifasciste.
Bah oui, parce que quand on est un communiste ou un anarchiste, au moment de combattre le fascisme, on ne combat pas seulement le fascisme, on continue à être communiste et anarchiste avec la volonté d'imposer, ou en tout cas de faire vaincre ses propres idées. Anne Mathieu, d'ailleurs, il y a quelque chose de bien difficile ici, parce que nous parlons des franquistes qui suivent Franco, nous parlons des phalangistes, nous sommes en Espagne dans les années 1930. Sont-ils des fascistes? Est-ce qu'on peut dire clairement qu'ils sont fascistes, au sens où fascistes dans les années 20 sont des Italiens, mais on sent que là le mot s'étend et peut caractériser ces mouvements-là? Vous l'admettez ça, on peut dire que le franquisme c'est du fascisme?
Mais je l'admets par rapport à la réponse que j'ai faite tout à l'heure, dans la façon qu'on a de désigner à l'époque de tout ce qui est en train de monter d'autoritaire en Europe. Et donc, en effet, les journalistes parlent des fascismes. Je voulais simplement revenir sur quelque chose, je peux.
Avec grand plaisir.
Parce que ce qui est intéressant par rapport à ce qu'on a entendu et ce que Pierre Salmon commentait ensuite, c'est aussi la vision qu'ont les journalistes quand ils arrivent sur le sol espagnol. Et la vision que ces reporters et reportrices ont quand ils arrivent sur le sol espagnol, donc dès l'été 1936, c'est de voir un peuple en armes. Et ça, c'est quelque chose qui les frappe et qu'ils vont énormément commenter. Et donc, ce peuple en armes, c'est pour eux leur entrée dans un autre monde dont ils viennent, qui est celui de la France. Donc, ils rentrent dans un pays en guerre, en révolution. Et ce qui les frappe, c'est le fait qu'il y ait des combattants partout dans les rues, alors notamment à Barcelone, mais ceux qui sont dans le Pays Basque aussi. Et bien entendu, ceci s'accompagne d'une vision, en effet, glorifiante que l'on veut du camp antifasciste. Bon, alors s'il y a des barricades, etc., c'est aussi parce que on est quand même dans les années 30 et que les moyens de se défendre sont quand même assez réduits dans ce cadre-là, surtout quand on a peu d'armes. C'est aussi, bien entendu, collé à une vision révolutionnaire hein, qui émane de la Commune, etc. Ça, on a des témoignages très précis dans les journaux de l'époque, mais c'est aussi, j'allais dire, on fait aussi ce qu'on peut avec ce qu'on a, et on est à une période où de toute façon c'est ce que l'on doit faire. Donc ces journalistes, ils sont complètement fascinés par les images qu'ils voient et par alors tout cela est empreint de stéréotypes aussi concernant les Espagnols. On a beaucoup de reportages qui disent ce qui les impressionne, c'est le chant qui tout d'un coup s'empare de la lutte. Alors, comme je l'avais écrit quelquefois, il y a des passages de reportages, on a l'impression que les Espagnols vont à la guerre avec les castagnettes et en dansant, vous voyez. Et en même temps, on voit bien que cela aussi est une réalité hein, du combat en Espagne. Et on sait bien que le chant, de toute façon, fait partie du combat. Et ces chants vont s'opposer aussi aux chants fascistes. Donc tout ça, c'est une ambiance, une atmosphère qui va fasciner les journalistes, mais qui va aussi fasciner l'Europe entière. Et qui va aussi créer, à mon avis, outre les aspects idéologiques, bien entendu, parce que les anarchistes, enfin c'est bien, le Comintern envoie les brigades internationales, etc., mais parce qu'il y a une fascination pour ce peuple qui est en train de se battre.
Oui, parce qu'en Italie, quand Mussolini arrive, il y a une lutte antifasciste avec des barricades. On l'oublie souvent. On sait aussi qu'en Allemagne, il faut pas l'oublier. On l'oublie souvent face à la violence du nazisme. Il y a une opposition. Pour l'Espagne, c'est un peu particulier parce que nous sommes au moment d'une guerre, une guerre civile. Donc, le contexte est un peu différent. Et vous évoquiez, Anne Mathieu, ces témoignages de journalistes qui peuvent être dans le même temps écrivains. C'est le cas de Paul Nizan, qui est envoyé en Espagne par l'Association des écrivains et artistes révolutionnaires.
Il y a une quantité de violence, de scandale et de sang au-delà de laquelle il n'est plus possible de revenir en arrière. Cette violence, ce scandale et ce sang ont tué la monarchie. Les ruisseaux de sang qui ont coulé à Badajoz, l'entassement des cadavres sur de grands bûchers, les sacrés-cœurs sur la poitrine des soldats du Tercio, les grandes bannières à l'image de la Vierge qui flottaient sur les camions des morts, les chapelets enroulés au poignet des assassins, et ces deux cadavres de jeunes filles tuées par les balles de l'Alcazar, qui pourrissent sur la route de Tolède, où les couples allaient le soir en promenade. Comment ces scandales permettraient-ils qu'on revienne en arrière ?
France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit.
C'est Raphaël Lalong qui disait ce texte de Paul Nizan, donc paru dans la revue de l'Association des écrivains et artistes révolutionnaires en septembre 1936, hein, ce texte-là, la violence est omniprésente. On l'entend ici, et c'est vrai que la violence est associée au fascisme, sachant que à la violence fasciste, il y a la réponse violente aussi. Et dans le cadre d'une guerre civile, elle est intense.
Oui, et puis on peut parler de violence légitime aussi. Je pense que, bon, je ne vais pas nécessairement développer sur ce sujet, mais on a quand même des agresseurs d'un côté et des agressés de l'autre. Donc, on ne peut pas, à mon avis, et Paul Preston d'ailleurs l'explique très bien dans ses ouvrages très documentés, mettre les deux camps sur le même plan. Alors, une fois que l'on a dit ça, en effet, la violence, la thématique de la violence et de la violence fasciste, alors on va employer le terme fasciste au lieu de franquiste hein, pour aller plus vite, va imprégner totalement les reportages, mais les articles de commentaires, les éditoriaux, les chroniques des journalistes français. Du côté des reporters et des reportrices, ça va faire partie des thématiques les plus en pointe parce que, en effet, la barbarie, c'est le fascisme. Et face à la barbarie du fascisme, il y a ces antifascistes qui se battent pour un autre monde qui va justement le changer, ce monde, et qui n'est pas celui de la barbarie, des massacres, des victimes innocentes, des destructions des villes, etc. Donc, en effet, il y a tout cela qui est très utilisé de façon récurrente et qui va modeler ce combat antifasciste en Espagne.
Pierre Salmon.
Oui, je rejoins ce qu'a dit ma collègue. Et c'est vrai que ces deux violences, elles peuvent pas être mises en symétrie. D'abord parce qu'elles sont pas d'un côté du camp franquiste et de l'autre côté au sein du camp républicain. Elle est organisée, systématique, c'est une violence d'épuration qui fait suite à une longue préparation avant la guerre civile, du côté des insurgés qui vont devenir franquistes, qui va provoquer, juste pendant la guerre, ça va continuer ensuite, 120 000 morts. Au sein de la République, il y a environ 50 000 morts, c'est pas peu. C'est pas peu. Ça s'explique par pas mal de facteurs, la proximité du front notamment, et aussi le fait que certains retournent la violence contre ceux qui la professent avec des phénomènes de décalage. Hein. On peut considérer parfois que le voisin, le clergé, le voisin grand propriétaire, c'est un fasciste, donc il peut être coupable d'une violence, donc on va aller le tuer, ou en tout cas le mettre en prison. Bon, il y a aussi ces phénomènes de décalage. Et en tout cas, d'amalgame, on pourrait dire. Ceci étant dit, sur ces deux violences, il y en a une dont on parle énormément dans la presse. Dès le début, c'est la violence au sein du camp républicain. Et très peu, au départ, de la violence commise au sein du camp franquiste. Et donc, cette guerre, l'image qu'on en a, en France, ailleurs, c'est une sale guerre. C'est une guerre avec des atrocités. Que la révolution, on vous l'avait dit, la révolution, c'est le couteau entre les dents. On va aller vous tuer demain. Donc attention, ne vous engagez pas dans cette guerre. Et ça, c'est ce qu'on appelle la propagande des atrocités. Hugo Garcia, un collègue espagnol, l'a très bien décrite en montrant comment, on va montrer ces atrocités. Un collègue parlait très bien des barbaries pour désolidariser de la cause de la cause républicaine, et ensuite la République va essayer de remettre le braquet, si vous me passez l'expression, de l'autre côté, en justement montrant toutes ces atrocités commises par les franquistes, en documentant ces nombreuses atrocités. Mais il y a une vraie guerre des images qui est très très importante quand on veut comprendre comment on se mobilise ou on se démobilise dans cette guerre d'Espagne, parce que cette guerre, elle est ce qu'elle est dans l'exercice de la violence et plein d'autres choses d'ailleurs, mais elle est aussi ce qu'on en perçoit. Et ça, c'est très important dans les mobilisations internationales.
Alors, ça dépend de quelle presse on parle. Parce que, j'ai dépouillé une centaine de périodiques, de la presse de gauche et d'extrême gauche, enfin des périodiques, donc voilà, des revues et journaux. Et dans ces périodiques de gauche et d'extrême gauche, on ne parle pas des violences du corps républicain. Fort peu. Et dès le début de la guerre d'Espagne, et même avant, on parle justement de la violence du camp fasciste. Parce que, en fait, tout ça, une fois de plus, ne commence pas au moment de la guerre d'Espagne. C'est-à-dire que tout est très documenté en France. Un des optiques de mon travail aussi, c'est de vouloir remettre de mes travaux les journalistes dans le cours de l'histoire, si je puis dire. Hein, c'est-à-dire que l'histoire au moment X, à mon sens, doit beaucoup plus aux journalistes que à des intellectuels qui ont pris une importance beaucoup trop poutrée dans notre historiographie et française notamment. Et donc tout ça est très documenté et on sait par exemple que au moment de 1934, de la révolution des Asturies qui a lieu aussi à Madrid et à Barcelone, la répression sanglante qui s'effectue. Au moment du Frente Popular, des élections de février 1936 jusqu'au déclenchement de la guerre d'Espagne, du coup d'État, du pronunciamiento, il y a des violences qui sont aussi accompagnées totalement par le clergé espagnol qu'il ne faudrait pas oublier dans notre catégorisation du franquisme et du fascisme espagnol. Et ce que donc je voulais signaler, c'est que tout cela est extrêmement su en France. Et après, pendant la guerre, on connaîtra exactement tout ce qui se passe également. En revanche, bien entendu, on va du côté du camp antifasciste journalistique français ne pas trop parler des représailles des républicains. Alors quelquefois, on a dans un article, je pense à une reportrice, André Violis, qui va dire « Oui, alors là, ils ont capturé des fascistes, mais bon, je vaut mieux m'en aller, je ne sais pas ce qu'il s'est passé après. » Parce que, une fois de plus, le but, c'est de montrer que la barbarie, c'est le fascisme, et en même temps, ils ont quand même raison.
Ah oui, bien sûr. Mais on est ici avec des journalistes, pour certains, qui correspondent à des médias orienté et on voit bien les différences d'approche parce que journaliste, il y a quand même un métier, il y a une profession, mais au moment de l'action, il y a aussi un message à faire passer. Pierre Salmon.
Oui, tout à fait. Et ce que souligne ma collègue, c'est un phénomène de polarisation. On le dit. Et d'ailleurs, le danger du coup d'État, il est connu hein, dans une presse de gauche en Espagne notamment, un peu en France. On sait qu'il y a l'imminence du coup d'État. Mais il y a une vraie polarisation à cette époque de la société française, belge, britannique. Si bien que certaines personnes n'accèdent pas forcément à cette information. Et Pierre Laborie, lui, il a parlé de récupération ombilicale du conflit, de rétrécissement hexagonal pour montrer comment la guerre d'Espagne était raccrochée à des enjeux politiques intérieurs français. Et quand on parle de l'Espagne, on parle un peu de la France, finalement, du danger fasciste en France, du danger communiste. Chacun y voit un petit peu dans l'Espagne son propre danger, projection pour l'avenir ou pour le présent. Et ça, il faut le prendre en compte quand on considère la décision politique, les décisions politiques françaises. Qu'est-ce qui a pu orienter les décisions politiques françaises? Bon, je pense pas forcément la presse d'extrême gauche, mais peut-être un peu plus la presse généraliste, centre gauche. Bon, il y a un gouvernement de Front populaire, mais ce gouvernement de Front populaire, il a pu être, on est plusieurs collègues à le penser aussi, assez effrayé par les risques d'une contagion révolutionnaire depuis l'Espagne.
Oui, parce que au moment où les événements en Espagne, ceux que nous commentons, se déroulent, en France, il y a le Front populaire, hein, ce Front populaire espagnol qui est menacé, qui a combattu, parce que, Anne Mathieu, vous avez eu raison de rappeler que cette guerre d'Espagne que nous faisons commencer en 1936, parce que c'est le coup d'État, trouve ses prémices auparavant avec cette grève générale de 1934, avec ce Front populaire. Et pour les démocraties européennes, la France notamment, la question se pose, que faire ?
Mon cher président et ami, vous savez avec quelle inquiétude d'esprit et quel déchirement de cœur je me suis résigné l'autre jour à l'attitude dite de neutralité. Jamais je n'ai pensé à une intervention, pas plus que vous ni quiconque, mais j'ai estimé que du moment que les insurgés étaient aidés puissamment par d'autres nations, qui à mon avis poursuivent une politique à longue échéance contre la démocratie, la France et la paix, il y avait lieu d'aider de notre côté un gouvernement ami, régulier et reconnu, à qui nous devons par accord formel aide, assistance, fourniture d'armes. Je suis convaincu que si nous avions été décidés à aider ce gouvernement régulier et reconnu par tous comme légitime, l'Angleterre aurait proposé elle-même sa médiation et il aurait beaucoup mieux valu, à mon sens, qu'elle en prît la direction. En tout cas, c'est chose faite. Mais depuis vendredi dernier, j'ai l'impression que par ces ajournements, l'Italie manœuvre. Je sais qu'elle continue d'aider le général Franco. Par des postes de douane, j'apprends qu'en contrebande, des munitions arrivent aux insurgés. Nous risquons d'être les victimes de notre générosité. Pour ma part, je vous le dis très franchement, je ne pourrai plus assister impuissant à un jeu de dupes.
Nous étions au mois d'août 1936, c'est-à-dire quelques semaines après le coup d'État du général Franco, et Vincent Auriol, alors ministre des Finances, écrit au président, président du Conseil, c'est Léon Blum. Nous sommes au moment du Front populaire, et Vincent Auriol s'interroge sur la politique de non-intervention. Ici, bien sûr, c'est une énorme question, et j'imagine, Anne Mathieu, qu'elle est commentée dans la presse, se dire, est-ce que la démocratie française, la République française, le Front populaire français, va aider la République espagnole?
Oui, tout à fait. Alors, juste, je me permets, avant de développer sur la non-intervention, dans ce que vous avez dit tout à l'heure, avec la façon dont est vu le Frente Popular, donc le Front Populaire Espagnol, vu de France. Et ça va être extrêmement instrumentalisé dans la presse française, au moment justement des élections du Front Populaire. Et là, et ça c'est très commenté par les journalistes français de la presse de gauche, qui s'en prennent justement à leurs homologues de la presse de droite, puisque hein, on a une polarisation, une bipolarisation très importante à cette époque-là. Hein. On est dans une presse engagée et militante, ou militante. Et donc, par exemple, il y a un journal, je crois que c'est Nizan, qui dit on va nous faire le coup de l'anthropophagie entre les deux tours. Vous voyez, par rapport à ce qui se passe en Espagne. Et donc, on voit bien cette instrumentalisation et la façon dont, une fois de plus, l'Espagne est utilisée par la France dans le jeu politique. Et sur la non-intervention, Il va y avoir des très très grandes batailles parmi les partis politiques, les organisations politiques en France. À l'intérieur des organisations politiques, tout le monde ne va pas être d'accord. À l'intérieur du camp socialiste, tout le monde n'est pas d'accord sur la non-intervention. À l'intérieur du camp communiste, il se joue un certain nombre d'éléments, mais globalement, on est contre la non-intervention, même si au départ, on refuse le terme d'intervention. Mais ça nous emmènerait beaucoup trop loin. Et du côté des organisations anarchistes, qu'on lui dit différents courants, là je parle des organisations anarchistes françaises, hein. On est en fait au départ, contrairement à ce que une imagerie là aussi et un héritage mémoriel a voulu faire entendre, dans une volonté dès le début de défendre le camp antifasciste et de réclamer des avions et des armes. Donc cette non-intervention, de toute façon, elle va être vilipendée par les journalistes de la presse de gauche. Il y a un terme qui revient sans arrêt, qui est le terme d'hypocrisie. D'hypocrisie de la non-intervention. Et pourquoi ce terme va être très popularisé parmi ces journalistes? C'est parce que, en effet, on voit bien qu'il y a un camp qui, en tout cas officiellement, et en tout cas d'un point de vue étatique, ne fournit pas d'armes à l'Espagne, et les autres qui en fournissent. Et quand je disais tout à l'heure qu'on savait tout, en plus, on sait au quotidien que tel cuirassé mouille à tel endroit des côtes espagnoles, que telles troupes italiennes et un peu moins hitlériennes mais ont débarqué. On sait très bien qui va bombarder Guernica, on sait tout en fait. Et donc ceci va ajouter à la volonté justement de dénonciation de ces journalistes qui pour eux font aussi leur devoir professionnel de cette façon-là.
Pierre Salmon, dans cette volonté de lutter contre le fascisme, on sait bien qu'en France, en février 1934, il y a eu une émeute fasciste qui a soudé les mouvements antifascistes. Bon, les soudures ne tiennent pas toujours bien longtemps, hein. Mais la non-intervention de la France en 1936, c'est aussi complexe. Au moment où la guerre d'Espagne structure le fascisme en Europe, on se rend compte qu'il n'y a pas de solidarité malgré tout évidente.
Oui. Ça surprend. Une des premières choses que le gouvernement républicain fait, c'est de réclamer des armes à la France du Front Populaire. Et là, il y a des discussions, je ne vais pas m'étendre dessus, qui sont engagées. La France consent à une aide limitée au début de l'été, et puis ensuite se dirige vers la non-intervention, cette formule qui divise. Ma collègue l'a bien rappelé. Elle divise partout. C'est vraiment une division qui creuse à chaque camp. Et dans cette division, après, qu'est-ce qu'on doit faire? Ne pas intervenir, ou alors si on intervient, oui, mais comment? Et là se joue un petit peu aussi l'identité de l'antifascisme, parce que l'antifascisme dans chaque pays et aussi à l'échelle, on pourrait dire mondiale, elle reprend, réemploie différentes cultures politiques qui existaient avant. Et parmi elles, en France, une des cultures politiques gauche majoritaire, c'est le légalisme. Le rapport au légalisme, ça fait longtemps, à part dans des organisations révolutionnaires, qu'on a abandonné ces voies de l'illégalité, de la clandestinité, quand bien même certains vont s'y prêter. On est plutôt sur une approche tout à fait légaliste. Et donc, si on met en place cette non-intervention, il faut pas forcément, même si certains militants vont le faire, il faut pas forcément la contourner. Alors dès lors, s'engage une autre forme de solidarité. Elle la contraint, elle la limite. Cette solidarité va prendre différentes formes. On dit bon, on empêche les envois d'armes, quand bien même on sait que ça ne fonctionne pas. On empêche les envois de troupes, quand bien même on sait que ça ne fonctionne pas. Mais dans ce cas-là, vous avez d'autres formes de solidarité. La solidarité humanitaire en fait partie, l'organisation de meetings, les collectes de fonds. On dit voilà, détournez-vous vers ces formes de solidarité. Et nous, certains le font au sein du gouvernement, et certains le font aussi évidemment du côté de la République espagnole. On va demander à mettre fin à cette non-intervention pour revenir à une formule d'État à État, et de tout faire pour qu'on ne soit pas sur des voies totalement clandestines.
Pierre Salmon, vous êtes l'auteur de cet ouvrage, Un antifascisme de combat, armée d'Espagne révolutionnaire 1936-1939. Dites-nous ici comment l'idée d'armer l'Espagne contre le fascisme, le franquisme, participe du combat contre le fascisme. Et c'est compliqué, hein, le fascisme, on sait que c'est une idée, mais qui s'applique et qui détruit la vie des gens et qui s'appuie sur de la violence, mais pas seulement, sur des valeurs. Et à partir de là, qu'est-ce que l'on défend et qu'est-ce que l'on combat? Est-ce que l'on combat le procédé? Est-ce que l'on combat les valeurs défendues aussi? Et dans le cas de l'Espagne, on sait que l'Église a un point important. Et qu'est-ce que l'on combat à ce moment-là?
Envoyer des armes en Espagne, ça peut être fait pour plein de raisons différentes. Et chez des militants révolutionnaires, c'est pour soutenir la révolution, ou alors soutenir la République agressée, parfois les deux. Tout ça, ça soulève des grands enjeux, parce que je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de légalisme chez les militants français.
C'est-à-dire voter, quoi.
Voter, ouais. C'est l'urne ou le fusil. Et puis, il y a aussi, même chez des militants révolutionnaires, un antimilitarisme. En France, on sort de la Première Guerre mondiale. Et cette Première Guerre mondiale, en France et ailleurs, c'est les marchands de mort. Et les marchands de mort, c'est vraiment le capitalisme, le fascisme, et envoyer des armes, ça suppose déjà de se prêter à des pratiques auxquelles on n'est pas forcément habitué, quand bien même certains militants peuvent s'y prêter, et puis après, pour ce faire, on doit collaborer avec des groupes criminels, acheter en dehors de France ou en France des pratiques tout à fait illégales, donc ça va aussi créer des divisions au sein même des mouvements militants, y compris ceux qui vont vouloir envoyer des armes. Et ce faisant, après, se pose la question, vous l'avez posé, pourquoi on envoie ces armes? Et puis comment on va le faire? Et puis quelles armes? Parce qu'au départ, ceux qui réclament des armes, ce sont des militants espagnols, qui partent d'Espagne, qui prennent leur voiture, qui viennent en France, par train parfois, et qui vont demander de l'aide. Et puis, les premières armes qu'on envoie en Espagne, au tout début avec la non-intervention, ça va être des armes envoyées avant l'application de cette non-intervention, des avions dans un cadre légal avec le gouvernement du Front Populaire, et puis chez les militants, ce sont de la dynamite, des pistolets. Et ça, c'est des armes révolutionnaires, la dynamite, le pistolet. Et c'est ce qu'on va faire au début de cette guerre. Et puis après, l'envoi d'armes va aussi évoluer avec la forme même du conflit, quand ce conflit va devenir un conflit international, avec des armes modernes, stratégiques. Les militants sont pas dupes, savent très bien qu'on ne peut pas lutter contre l'aviation nazie avec de la dynamite.
Oui, et puis dès lors, ici, d'autres acteurs entrent en jeu, je pense à l'URSS, parce que dans la volonté de recevoir des armes, alors quelles armes? C'est compliqué, hein, et puis c'est pas tout de recevoir un tank, déjà faut le faire venir, et puis après faut savoir piloter ces engins-là, même si c'est pas dur à conduire, mais enfin bon, quand même, faut le savoir.
Tout à fait. Et puis, quelles armes? C'est intéressant la question de l'URSS, parce que quand on parle de l'aide à l'Espagne républicaine, on parle évidemment de l'URSS. Parce que l'URSS, c'est la première pourvoyeuse d'armes pour la République espagnole. Mais c'est aussi la solution de la dernière chance. La République, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle demande des armes au Front Populaire, elle demande des armes en Belgique, elle va chercher aux États-Unis un peu partout, elle fait une grande tournée européenne pour chercher des armes. Et puis ensuite, à la fin du mois de septembre, ils protègent l'or espagnol, une partie de l'or, pas tout l'or espagnol, en l'envoyant en Russie, et puis dans l'espoir aussi d'obtenir des tanks et aussi de l'aviation. Et de l'aviation très moderne qui va avoir un rôle absolument décisif dans la défense de Madrid et dans la guerre d'Espagne. Bon, ça va pas être un partenaire absolument régulier, l'URSS, mais ça va évidemment avoir un impact énorme sur l'évolution de ce qu'est l'antifascisme en Espagne, parce que aucune aide n'est gratuite, et aussi sur la survie de ce camp républicain à court terme. Donc, ça va avoir un changement d'équilibre, un rapport sur ce changement d'équilibre au sein du camp républicain et aussi sur l'image même de ce qu'est l'antifascisme, parce que certains dans le camp d'en face vont dire, vous avez vu, les communistes sont là, la révolution est là, et puis d'autres vont dire, nous en tant que communistes, maintenant on incarne ce qu'est même l'antifascisme.
Avec ici l'idée d'envoyer des armes pour combattre le fascisme, le franquisme. Mais dans le même temps, il faut combattre par les idées, il faut ici expliquer aux gens, et dès lors il s'agit d'envoyer des tracts.
J'ai eu peur lorsque nous avons eu un accident d'avion en pleine Sierra, nous sommes écrasés au sol. Deux de nos compagnons étaient blessés, Lucien Vogel et un autre garçon qui était avec nous. Et Lucien Vogel évanoui par terre. Moi, je portais dans mon sac tous les papiers des journalistes que nous étions. Et nous étions bien entendu des journalistes républicains. Vogel évanoui, tout à coup, ouvre les yeux et me dit « Avalez vos papiers ». Il en avait de bonnes, j'avais un énorme sac plein de papiers. Il n'était pas question pour moi de les avaler. À ce moment-là, arrivent des hommes avec des fusils qui se précipitent vers nous et qui nous parlent avec volubilité. Je ne sais pas un mot d'espagnol. Et je me dis, mais je ne sais pas ce qu'ils veulent. Où sommes-nous tombés? Et Vogel me dit, mais où sommes-nous? Mais je dis, je n'en sais rien. Là-dessus, un de ces hommes qui s'est approché de nous gesticulait beaucoup et je vis sortir, entre le cou et la chemise, un foulard noir et rouge. Ceci me rassura, c'était la couleur des anarchistes. Alors nous étions en famille.
Journaliste Madeleine Jacob ici, qui s'exprimait en 1970, journaliste, avec tous ses documents, ses papiers, parce que Anne Mathieu, ces journalistes que vous avez étudiés, nous n'oublierons pas les points levés, ce sont des gens qui vont sur place aussi, parce que c'est du journalisme d'investigation et du journalisme de guerre en l'occurrence, et avec l'idée, elle le dit clairement ici, Madeleine Jacob, que bon, elle tombe du côté des anarchistes et ça l'arrange beaucoup parce que elle est en famille.
Oui, alors c'est très émouvant d'entendre la voix de Madeleine Jacob parce que j'ai reconnu que c'était elle du fait de l'anecdote qu'elle était en train de raconter, mais en revanche, je ne connaissais pas ce son. Et Madeleine Jacob fait partie de ces journalistes absolument remarquables qui couvrent la guerre d'Espagne. Et il est important de signaler, à mon avis, qu'elle fait partie des tout premiers journalistes à entrer dans l'Espagne en guerre. Et en plus, la toute première femme à entrer sur le sol espagnol en guerre. Elle va à Barcelone, elle fait un reportage pour l'hebdomadaire Vue, dont elle parle là dans le témoignage. Elle parle de Lucien Vogel, qui est le directeur. Et là, en fait, ils font un voyage en avion d'une ville espagnole à une autre. Et en effet, l'avion s'écrase. Et donc, elle fait ce reportage à Barcelone pour Vue, hein, et c'est quelqu'un qui va couvrir aussi les camps d'internement au moment de la retirada, les camps d'internement qu'un journaliste appellera les camps de la honte, donc dans notre pays, la France, en janvier-février 1939. Et entre-temps, j'ai perdu votre question.
C'était ce témoignage de cette journaliste. Voilà, non mais ces journalistes qui vont sur place. Et là aussi, mais avec cette orientation politique. Mais là aussi, c'est le boulot de l'historien, de l'historienne, de savoir qui parle. Et puis j'ai presque envie de le dire, c'est le boulot de tout citoyen et citoyenne au moment de lire un journal, de savoir qui me parle. C'est tout à fait normal. Ici, on a au plus près des combats et de l'action antifasciste des journalistes.
Oui, tout à fait. Et en plus, il n'y a pas de problème parce que en fait l'essentiel c'est d'annoncer la couleur, si je puis dire. Et tous les lecteurs de tous ces journaux, de toute cette presse, savent exactement quel journal ils lisent. Donc ils savent parfaitement qu'on est dans une presse engagée. Hein, je ne parle pas des autres périodiques qui sont là les périodiques parisiens plus conformistes, plus conservateurs, mais où il y a des journalistes aussi antifascistes qui vont publier. Et en effet, il y a ces journalistes qui vont couvrir la guerre d'Espagne, alors ils sont extrêmement nombreux. Il y a des femmes parmi eux, ça aussi je pense qu'il est important de le dire, c'est-à-dire on a déjà des reportrices à ce moment-là, qui ne sont pas du tout en quantité négligeable, qui vont sur le front, alors beaucoup sont aujourd'hui complètement oubliées, méconnues, c'est aussi un début de mes travaux, de les remettre sur le devant de la scène, mais aussi tous ces journalistes que l'histoire a complètement effacés et qui... Et c'est grâce à eux que nous avons les informations à l'époque. Et nous aussi, chercheurs, aujourd'hui, c'est en dépouillant les périodiques que nous avons les informations les plus détaillées. Ensuite, bien entendu, il faut mettre de l'ordre dans tout ça par rapport à la propagande, au prosélytisme, etc. Mais ce sont des sources irremplaçables.
Et puis on voit surtout se structurer aussi ce combat antifasciste, parce que on peut vraiment dire cela et on sent bien, on l'entend dans ce que vous nous dites l'un et l'autre, combien l'observation de ce qui se passe en Espagne depuis la France et ailleurs en Europe fait la structure de l'antifascisme avec malgré tout toute cette pensée, ces divisions. Par exemple, Anne Mathieu, on sait bien que Antonio Gramsci en Italie, donc dans sa lutte contre le fascisme, associe le fascisme au capitalisme. Est-ce que toutes ces idées-là, on les voit apparaître dans la presse pour expliquer aux lecteurs, aux lectrices, ce qu'est le fascisme, ce qu'il faut combattre ?
Alors, du côté des journalistes, alors là, on va être plutôt du côté des commentateurs, des éditorialistes, on a un paradigme, en fait, qui se met en place et dont le fascisme est lié à l'impérialisme parce que aussi on a cette aventure du conflit italo-éthiopien avant, puis on est dans une phraséologie plus marxiste, on va dire. Et les références, ça va être plus cela. Mais ce qui se joue, en effet, par rapport à ce fascisme et cet antifascisme, c'est aussi une vision française qui va être mise en place au fil du temps, une vision de deux France. Et que l'on voit se dessiner, et notamment, et ça va avoir des impacts aussi par rapport à la guerre d'Espagne, puisque ça va avoir des conséquences par rapport aux réfugiés, avec la fin du Front populaire français en 1938, les décrets-lois d'Aladier, et où on voit cette opposition, et par rapport à ça se joue aussi le sort des réfugiés espagnols. Donc on voit bien qu'on va vers quelque chose qui s'appelle aussi... la Seconde Guerre mondiale. On ne sait pas qu'on va vers une occupation, mais...
Oui, et puis vraiment, on sent que la période est riche de tensions à ce moment-là, hein, parce que c'est vraiment ça qu'il faut mettre en compte. C'est pas, nous l'avons déjà dit, le fascisme qui surgirait dans une Europe pacifiée. L'Europe est déjà pleine de tensions. Pierre Salmon, on voit bien ici que se mettent en place toutes ces solidarités. Comment s'organise justement la solidarité antifasciste à l'échelle de l'Europe? C'est-à-dire que le combat antifasciste prend des moyens très différents. Il y a par les armes, et là je reprends l'antifascisme de combat, c'est le titre d'un de vos ouvrages, mais il n'y a pas que cela.
Évidemment, et on en parle dans l'ouvrage collectif avec Mercedes Yusta et François Godichaud. Il y a
la guerre d'Espagne, la démocratie assassinée.
Une solidarité à l'épreuve, une solidarité qui revêt énormément de formes. Ces formes, elles sont, je l'ai dit, sur les différents terrains. Elles vont aller sur l'accueil des enfants. Célia Kerren l'a bien étudié. Elles vont aller sur l'organisation de collecte. On fait de l'affichage. On publicise la cause. Hein, c'est assez important. Et puis après, il faut se poser la question de comment. Et comment ça va passer par des comités, par le système associatif. Donc, certaines organisations qui existent déjà se mobilisent. Je pense à la CGT, à la Ligue des droits de l'homme. Mais il y a aussi la création de comités d'aide à l'Espagne, de différentes tendances d'ailleurs. Et ces comités vont avoir une tendance à la fusion. Et cette fusion, elle est intéressante parce qu'après, elle va créer aussi des éclatements, elle va faire apparaître des divisions sur l'attitude à adopter, sur la place de tel ou tel groupe. Ce qui crispe le plus à cette époque, c'est la place de plus en plus hégémonique prise par les communistes. Donc on discute de qui doit mener ce combat de solidarité pour l'Espagne républicaine, en quel nom, avec quel mot. D'un côté, certains aussi essayent de neutraliser cette cause. Hein, je pense à la CGT dans l'accueil des enfants qui parle d'une cause presque politique. C'est neutre. On sauve des enfants. On va aider la veuve et l'orphelin en Espagne. C'est une cause neutre. C'est pas le dangereux, je mettrais guillemets, révolutionnaire avec le poing levé et une arme à la main. Donc voilà, on change un petit peu pour s'adapter et puis réussir à capter, si vous voulez, le plus largement possible en dépassant ses bases. Ça va pas aller sans division, je vous l'ai dit. Mais en tout cas, il y a une vraie tendance aussi unitaire et d'essayer d'aller capter dans d'autres milieux qui vont être même en France, par exemple, les milieux catholiques. Alors certains vont pas se définir comme antifascistes non plus, mais vont avoir en tout cas la volonté de lutter contre le fascisme, contre ses valeurs, contre sa destruction, parce que le fascisme sème la mort, et c'est certainement pas en accord avec l'ensemble des valeurs catholiques.
Ah oui, ça c'est sûr, et puis effectivement, on va trouver des catholiques antifascistes, ça on le sait bien, c'est une évidence, Anne Mathieu.
Oui, alors justement sur la solidarité, et la solidarité envers les réfugiés, et notamment les enfants, en tout cas dans un premier temps, dans les premiers temps de la guerre, où ce sont surtout des enfants qui vont arriver sur le sol français, ça c'est aussi... C'est un sujet dont s'emparent beaucoup les journalistes. Donc on va envoyer des reporters, des correspondants qui vont faire moult articles sur cet accueil des enfants. Alors aux quatre coins de l'Hexagone. Hein, donc là aussi c'est très documenté. Et on voit néanmoins, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, Pierre Salmon, on voit néanmoins une volonté, une bataille entre partis se faire jour hein, dans ces reportages et ces correspondants. C'est-à-dire que on va témoigner pour les petits, hein, comme on dit, les petits espagnols. Il y a différents termes qui sont les gosses aussi. Hein, on emploie ce mot-là. Et puis on ne manque pas, au détour d'une phrase, de rappeler que tel centre dont on vient de vous parler pendant plusieurs lignes, eh bien, c'est un centre de la CGT parce que les camarades communistes. Et c'est la colonie d'Orly qui est gérée par les socialistes. Et là, on va bien vous le rappeler. Et puis il y a aussi, il faut pas oublier, l'aide internationale et l'aide localement en France, qui est donnée par les mouvements divers anarchistes, et dont l'Union anarchiste, ça c'est le libertaire, ou les fédéralistes anarchistes, ça c'est la Voie libertaire, ou d'autres, vont se faire l'écho, vont faire appel aux dons de leurs militants, aux laits qu'il faut pour les enfants. Ils vont avoir énormément d'actions aussi en Espagne, et on va photographier énormément aussi les réfugiés que sont les enfants.
Ah, et ça, c'est très important de le souligner. J'ajoute deux points à l'Hexagone. Pierre Salmon.
Oui, effectivement. Et ce qu'on voit dans cette mobilisation, et puis qui évidemment ne va pas sans lutte interpartisane, c'est évident, c'est qu'on a peu de militants finalement qui se mobilisent. Ils jouent un rôle fondamental et certains militants vont être sur les différents fronts de la solidarité. On va retrouver à l'échelle du conflit, des fois simultanément, des militants qui vont être dans l'accueil des enfants, dans l'envoi d'armes, dans la propagande, dans le contre-espionnage. Si vous voulez, on est sur un monde de peu de militants, parce que des militants, il faut être disponible, il faut avoir certaines compétences internationales, linguistiques, on le voyait avec l'extrait de tout à l'heure, pour se prêter à cette solidarité. Et puis, il faut avoir l'envie aussi de se prêter dans un combat qui est tout à fait incertain, dans le combat espagnol, parce que voilà, on peut y aller au péril de sa vie. On n'a pas parlé aussi des brigades internationales, et c'est évidemment fondamental. Beaucoup de personnes vont prendre les armes pour défendre cette République espagnole au péril de leur vie, pas par un apanage de la violence comme ça peut exister dans les organisations fascistes, non, pour une idée de sacrifice personnel pour une cause collective. Et ça, on peut le retrouver voilà, chez un monde assez limité, mais qui a un impact assez fort, même si, évidemment, je vous dis limité en nombre de militants, mais ça ne veut pas dire que c'est une petite cause en Espagne, parce que la guerre d'Espagne, on en parle beaucoup, elle intéresse beaucoup, elle clive énormément en France. Là encore, il faut souligner la polarisation et l'émotion autour de cette cause.
Et puis les brigades internationales, vous venez de les citer, Pierre Salmon, mais sont vraiment au cœur aussi de cette réflexion de la lutte internationale antifasciste. On peut pas les écarter, bien sûr.
Et tout à fait. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend les armes? Quelles armes? Et puis, derrière quelle organisation? Parce que les brigades internationales, ce sont 35 000 troupes, pas tous communistes d'ailleurs, l'essentiel l'est, derrière l'internationale communiste. Mais il y a d'autres milices, des milices anarchistes. On pense à George Orwell, qui va en Espagne, dans des milices qui ne sont pas des milices communistes. Il y a des milices communistes non staliniennes. Enfin voilà, il y a foule d'organisations, je vais pas m'étendre. Mais voilà, on choisit un peu. Et des fois, c'est un peu une question de hasard. On y va, on veut défendre l'Espagne. On le voit très bien dans le film de Kenneth Loach, je trouve, justement, sur cette question des brigades, de l'engagement. Lui, il n'est pas dans les brigades, hein, dans ce film, mais on le voit, on s'engage, on veut défendre la République, on veut contre le fascisme, et on y va. Et on y va avec un peu d'audace aussi.
Anne-Mathieu, vous êtes également l'autrice, en plus de « Nous n'oublierons pas les points levés », donc sur ces reporters, ces journalistes pendant la guerre d'Espagne, d'un ouvrage intitulé « Sur les routes du poison nazi, reporters et reportrices de l'Anschluss à Munich ». Parce que il y a l'Allemagne en même temps. On parle de situation internationale, donc c'est pas possible de regarder ce qui se passe ailleurs. Et c'est important d'évoquer cela. Est-ce que sous cette botte nazie, l'antifascisme est possible? Évidemment, je parle de ce début du nazisme. 1933, Hitler arrive au pouvoir. 1938, l'Anschluss. Est-ce qu'il y a des formes ici d'analyse antifasciste qui peuvent passer jusqu'en Allemagne?
Alors, là, je ne peux parler que des journalistes, de ce que je connais, qui vont là-bas. Et donc, dans le travail que j'ai effectué, ce qui est intéressant, je trouve, c'est de voir... Alors, justement, on retrouve Madeleine Jacob, qui va notamment en 1938 en Allemagne et qui y va, contrairement à ce qu'on fait d'habitude, elle n'y va pas en tant que journaliste. Enfin, elle y va masquée, on va dire. Elle se fait passer pour quelqu'un qui fait un autre métier. Et là, elle va recueillir un certain nombre de témoignages de gens qui vont lui dire qu'ils sont anti-nazis, mais qui se cachent pour lui parler. Mais elle, par ce biais-là, apporte aussi une parole de France pour montrer qu'il y a des gens qui peuvent soutenir cette cause. Donc, il y a ce va-et-vient. Alors, qu'est-ce qui transparaît en Allemagne? Ça, moi, j'ai pas les compétences pour le signaler. En revanche, on sait là aussi que ce combat antifasciste en France, on voit déjà contre quoi il combat en Allemagne et là où c'est déjà installé. Et on a ces journalistes, en plus, c'est pour ça que j'avais voulu faire ce travail, parce que là aussi, il n'avait pas été fait, qui sont en Espagne et qui vont aller couvrir le front à l'Est, un autre front qui n'est pas un front en guerre, et donc qui apporte aussi un éclairage sur ce qui se passe en Autriche, sur ce qui se passe en Tchécoslovaquie, sur ce qui se passe à l'Est, du fait aussi de ce qu'ils ont vu en Espagne.
Pierre Salmon.
Oui, tout à fait. On voit très bien avec ce qu'a dit ma collègue que finalement la cause espagnole, c'est une matrice. Une matrice qui va aussi reprendre, catalyser différentes mobilisations qui existaient déjà. Et c'est pour cette raison qu'on trouve évidemment des Allemands qui au départ pensent pouvoir revenir en Allemagne après 1933. Peut-être que le nazisme ne durera pas. On se pose cette question. Et puis on trouve des Italiens évidemment. Des Italiens antifascistes, des Polonais et d'autres qui vont s'engager dans les brigades internationales, mais pas seulement, mais qui vont faire que l'Espagne va être un terreau très très important de cette lutte antifasciste. Pendant la guerre, et va laisser des traces après, pendant la Seconde Guerre mondiale et les années qui suivent.
Et ces combattants étrangers allemands, notamment allemands, sont très mis en avant par les antifascistes espagnols, alors qu'ils soient anarchistes, communistes, socialistes. Et notamment, je pense à un numéro spécial d'une revue qui s'appelait El Mono Azul, qui est complètement dédié, enfin plusieurs numéros, aux combattants étrangers, et notamment aux écrivains allemands qui sont allés combattre en Espagne.
Solidarité antifasciste internationale. Merci vivement à tous les deux d'être venus dans le cours de l'histoire. Anne Mathieu, je rappelle, hein, nous n'oublierons pas les points levés. Ça, c'est sur les reporters pendant la guerre d'Espagne et sur les routes du poison nazi. C'est sur les reporters pendant, de l'Anschluss jusqu'à Munich. Ici, nous avons, Pierre Salmon, vos ouvrages également avec un antifascisme de combat. Armée, l'Espagne révolutionnaire, et puis cet ouvrage que vous avez co-dirigé chez Talendier, La guerre d'Espagne, la démocratie assassinée. Merci beaucoup à tous les deux. Prochain épisode dans le cours de l'histoire, l'Allemagne de l'Est, l'antifascisme et la guerre froide, témoignage d'une jeune Allemande de l'Est en 1960.
Je vois que le nazisme était vraiment inhumain et terrible. C'est douloureux de discuter avec mes parents des Juifs. Je suis élevée dans l'antisémitisme et je ne peux pas persuader mes parents qui n'avaient pas raison.
Le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau, à la technique Alex Dang. Émission préparée par Jeanne Delecroix, Raphaël Laloum, Jeanne Copet, Sidonie Lebeau, Chloé Rouillon, Tom Umdenstock et Mayouen Guizhou. Émission écoutée à podcaster sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France.